Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur le synode régional de l'Église protestante unie qui a eu lieu donc du 17 au 19 novembre dernier à Sète. Pour cela, j'accueille James Woody, pasteur à Montpellier, et qui a été aussi le rapporteur des avis produits par les églises locales concernant le thème synodal de cette année, dont le sujet était les ministères et la mission de l'Église. Vous n'étiez pas seul comme rapporteur, je signale qu'il y avait aussi Olivier Abel.
C'est important de le faire.
Voilà. James Woody, merci d'être avec moi et bonjour.
Bonjour, je suis très heureux de vous rejoindre.
Voilà, merci bien. Donc, tout d'abord pour le synode, ce qu'est un synode, peut-être certaines personnes, auditeurs et auditrices non avertis, se posent la question de qu'est-ce que c'est ce synode, qu'est-ce qu'un synode?
Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être un mot assez mystérieux, c'est un mot grec en fait, le préfixe « syn », ça veut dire « avec », et le mot « odos », c'est le chemin. Et en fait, c'est l'idée de faire chemin ensemble, de faire chemin avec les autres. Et ça s'explique très bien par le fonctionnement de notre Église, que l'on essaie de rendre aussi démocratique que possible. Les églises protestantes sont constituées sur la base des associations 1905, donc ce sont des associations. Chaque église locale, par exemple à Nîmes, par exemple à Montpellier, à Saint-Jean-du-Gard, ont des assemblées générales qui vont élire un conseil presbytéral, un conseil d'anciens. Et au sein de ce conseil, ils vont choisir un membre délégué au synode, c'est-à-dire à l'assemblée générale de la région. Donc, toutes les églises de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon choisissent un délégué par pasteur pour constituer une sorte d'assemblée générale qui va prendre toutes les décisions utiles en matière de finances, en matière d'orientation de la vie de l'Église, et par exemple, quand il s'agit de travailler un sujet comme les ministères et les missions de l'Église.
Alors, ce thème qui a été choisi cette année, il avait déjà été démarré dans la réflexion, je crois, depuis un ou même peut-être deux ans.
Oui, il s'agissait en fait sur trois cycles d'assemblée générale, parce qu'il y a l'assemblée générale de l'association cultuelle, donc d'une paroisse, disons, ensuite de la région, et puis au niveau national, avec le synode national. Il s'agissait de réfléchir à notre mission. En fait, c'est qu'on se rend bien compte que ces temps-ci, ça ne va pas bien fort, que nous avons du mal à renouveler nos assemblées, que la mission de l'Église est un petit peu en panne, finalement. Et nous nous sommes dit, prenons ce sujet à bras-le-corps, sur trois sessions synodales, pour penser tout d'abord les objectifs de la mission. C'est quoi faire mission? Et ça, c'était l'objectif de la première rencontre, créer une sorte de charte de la mission. Ce coup-ci, c'était de voir quelle était l'implication de cette mission d'Église par rapport au ministère. Et puis la fois prochaine, ça sera de voir comment tout cela peut se transcrire dans notre constitution, dans nos textes réglementaires. Et donc là, il s'agissait de voir comment on fait pratiquement pour que notre Église soit une Église de témoins, que notre Église soit une Église en situation de mission, d'évangélisation, avec tout ce que ça suppose aussi comme limite pour ne pas être dans une sorte de fanatisme qui consisterait à croire que tout le monde doit penser comme nous.
Comment a été travaillé ce thème en amont, en église locale, avec, je crois qu'il y avait un document de réflexion, et puis donc les personnes ont répondu, et vous, avec Olivier, Abel, quel a été votre rôle, votre travail?
Alors tout d'abord, ça a été un processus qui a été un peu compliqué à mettre en route parce que avant qu'on interroge les églises locales, il y a tout d'abord les rapporteurs au niveau national qui produisent un document de travail sur lequel les églises vont travailler. Et ce document a été difficile à élaborer. C'était un document qui était assez technique, compliqué, qui avait une vision très centrée sur les structures et le Conseil national, qui est au fond le comité exécutif, a demandé au rapporteur de faire un document plus simple, et le document plus simple était encore assez compliqué. Alors, avec Olivier Abel et le conseil de la région présidé par Jean-Pierre Julien, nous avons décidé d'organiser une réunion régionale pour aider les membres des différentes églises à rentrer dans ce dossier et à pouvoir traiter le sujet qui pouvait leur sembler un peu hermétique, un peu trop technique. Donc, on a eu une première rencontre tout à fait intéressante à Montpellier avec une quarantaine de personnes et ça a permis de lancer la réflexion et donc, les églises locales ont convoqué des réunions, y ont réfléchi en conseil presbytéral, donc l'équivalent des conseils d'administration des églises, et ont écrit des rapports qui nous ont été envoyés. Et cet été, avec Olivier, eh bien, nous avons fait la lecture de ces rapports pour en faire une synthèse et faire une sorte de proposition de travail pour le synode régional en vue de faire une résolution. Alors, notre rapport est à la fois l'occasion de faire un peu le point sur la vie de l'Église dans la région. On a dressé finalement un portrait qui n'est pas très élogieux, mais qui nous semble juste, proche de la vérité, c'est-à-dire une Église fragile, une Église qui est un peu à bout de souffle par toutes les tâches administratives, juridiques qu'elle doit mener et qui n'a plus beaucoup de temps pour la mission. Et nous nous sommes dit avec Olivier que justement, il fallait essayer d'inverser cette tendance qui consiste à être submergé par les tâches matérielles, les tâches administratives, pour retrouver le cœur de mission et surtout le goût de cette mission. Et remettre un peu de souffle en donnant un petit peu d'air, finalement, à tous les responsables d'église qui se sentent coincés dans le carcan administratif. Donc, on a à la fois fait un bilan, on a essayé d'être au plus juste de la réalité pour que on ne vive pas dans l'illusion que notre région est aussi belle que du temps des Camisards, par exemple. Et puis en même temps, donner matière d'espérance, c'est-à-dire que, voyez, un peu comme dans les psaumes, on s'est dit que la plainte qui était formulée dans les différents rapports des églises était une manière de dire qu'il y avait le désir d'un changement, le désir d'autre chose. Voyons, on se plaint parce qu'on sait qu'il pourrait y avoir un autre ordre de la situation, un autre ordre du monde. Et c'est cet autre ordre qu'on a essayé de mettre en évidence et de faire travailler pendant le synode.
Donc, non, il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu, donc beaucoup d'églises locales, beaucoup de monde
Alors, on peut
a
dire qu'il y a à peu près
participé.
la moitié des églises et des ensembles qui ont répondu. Donc, disons une quinzaine, plus différents groupes, par exemple les étudiants de la faculté de théologie, des réunions paroissiales qui ne sont pas directement liées à des conseils presbytéraux, et puis aussi une poignée de contributions individuelles des personnes qui, personnellement, se sont senties concernées par le sujet et ont voulu transmettre des indications, des remarques qui ont d'ailleurs été utiles et intégrées dans notre rapport. Alors, vous voyez, peut-être
Oui,
juste
oui.
pour donner un ordre d'idée, on peut se dire que la moitié des églises locales, c'est assez peu, mais compte tenu de la difficulté du dossier, de la technicité du dossier, avec Olivier, on a estimé que c'était quand même plutôt un bon résultat.
Comment il était fait ce document, ce dossier? Il y avait des questions précises qui étaient posées, où il y avait, où c'était par, comment dire, par angle, par quatre aspects principaux, comment
Oui,
est-ce
alors
qu'il...
il y avait en fait quatre angles, effectivement, quatre aspects, comme vous dites. Je vous les cite, comme ça c'est plus facile de voir comment se constitue un dossier pré-synodal, un dossier pour préparer le synode. Il y avait tout d'abord la question de témoigner en paroles et en actes. Ensuite, il y avait témoigner en intégrant la diversité de l'Église universelle. Il y avait témoigné en s'appuyant sur une variété de ministères, et puis il y avait témoigné grâce à la formation continue de tous. Et donc, les rapporteurs nationaux ont établi pour chaque partie, finalement, une liste d'actions possibles et ont fait une proposition à chaque fois qui était de créer une équipe nationale pour réfléchir à cet angle. Donc, par exemple, une équipe chargée de la formation, une équipe chargée des différents ministères, une équipe chargée de témoigner en paroles et en actes, et donc une commission technique qui dépendrait directement du synode national, donc c'est-à-dire une équipe élue par l'Assemblée générale au niveau de la nation, qui pourrait, comme cela, finalement, dire ce qui pourrait être, ce qui devrait être mené dans l'Église. Et Il nous a semblé qu'en fait, ce n'était pas la bonne réponse à la situation présente, parce que c'est une commission technique à chaque fois qui était envisagée comme la bonne réponse, mais très éloignée de nos réalités locales. Et il nous a semblé que si on voulait reprendre pied dans notre histoire, si on voulait reprendre la main dans une histoire qui a tendance à nous échapper un peu, hein, avec des effectifs qui diminuent, avec un essoufflement des personnes, peut-être un découragement parfois, il fallait revitaliser au niveau local, c'est-à-dire ressusciter localement l'énergie qui nous permettra d'être vraiment en phase avec notre désir de mission. Et donc, plutôt que de prendre ces quatre axes avec les quatre commissions techniques qui étaient proposées, nous avons décidé de reprendre les quatre ministères qui sont structurants dans notre Église depuis la Réforme, c'est-à-dire le ministère pastoral, parce que dans les réponses, on a souvent entendu qu'au fond, on voulait des pasteurs, plus de pasteurs, et des pasteurs bien formés, avec des études de théologie comme celles que nous connaissons actuellement, bien formés bibliquement, philosophiquement, théologiquement, et pas avec des pasteurs qui auraient un diplôme fait en 2 ans, qui seraient considérés un peu comme des pasteurs au rabais. Donc, ministère pastoral, ministère presbytéral, c'est-à-dire les conseillers de paroisse, avec le désir de bien renforcer leurs responsabilités et de leur dire, vous n'êtes pas là simplement pour remplir des registres, vous n'êtes pas là simplement pour choisir la couleur des murs du temple, vous êtes là pour insuffler la spiritualité qui va animer la vie de l'Église. Le ministère diaconal, pour dire que notre Église est diaconale. Et bien souvent, on a l'impression que les protestants, ce sont des intellectuels qui brassent des idées, etc. Il s'agit d'incarner l'amour du prochain, de rendre service, d'être au plus proche de ceux que Dieu nous confie. Et puis le ministère doctoral, c'est de dire que nous devons penser la foi. Il ne s'agit pas d'être des bénis oui-oui en quelque sorte, d'être de grenouilles de bénitier. Il s'agit d'avoir une sorte d'intelligence de la foi, de la religion, de penser Dieu et le monde, et de pouvoir offrir à nos contemporains les mots pour exprimer leur espérance, peut-être aussi pour exprimer leur mal-être, de façon à ce qu'ils puissent être convertis en dynamique de vie.
Comment ça s'est
Alors,
passé pour que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas vous qui avez décidé ce qui
non,
avait.
certainement pas. Non, non.
Voilà.
Comme vous l'aviez dit au départ, nous sommes rapporteurs et donc nous sommes là pour aider l'Église à travailler et être en quelque sorte une chambre d'écho à ce que l'Église souhaite. Alors, vous voyez, là, toute la difficulté, c'est est-ce que l'Église souhaite une chose commune? On a des églises locales différentes, composées de personnes différentes, est-ce qu'il est possible d'avoir au bout du compte une résolution commune pour tous? Et c'était le défi auquel nous étions confrontés, et sans vouloir créer un suspense, nous avons finalement réussi. Mais pour cela, nous avons travaillé finalement en 2 temps. Le premier temps consistait à formuler l'avis que nous allions rendre aux rapporteurs nationaux par rapport à leurs propositions sur les 4 axes. Et donc la création de 4 équipes spécifiques au niveau national. Et donc nous avons testé l'hypothèse qui nous semblait être celle qui faisait consensus, à savoir un avis négatif. Et effectivement, après avoir proposé un projet de résolution qui a été modifié pour l'ajuster, pour le rendre plus juste, plus précis plus complet également. Il a été décidé par 85 voix contre une que nous allions formuler un avis négatif pour la création des 4 commissions, tout en reconnaissant qu'il y avait dans des actions pratiques des choses qui nous semblaient tout à fait intéressantes. Et puis ensuite, ça c'était, disons, le vendredi soir que nous avons travaillé sur cette partie de la résolution. Et le lendemain, le samedi, nous avons organisé un travail en groupe sur les 4 ministères, justement. Et donc, nous avons réparti le synode en groupes de 12 à peu près, et il y avait 3 groupes qui travaillaient sur chaque ministère. Donc, 3 groupes qui travaillaient sur le ministère pastoral, sur le ministère presbytéral, etc. On leur a proposé d'abord de réfléchir à ce qu'étaient les missions de chaque ministère, quelles étaient leurs responsabilités, leurs tâches, et puis d'essayer de rédiger tout cela en une synthèse de 1 ou 2 phrases. Et ensuite, on leur a fourni le texte que nous avions imaginé à partir des réponses des églises locales et de notre propre compréhension de ce que peut être chaque ministère, pour qu'ils puissent réagir sur cette proposition de texte et faire toutes les modifications qu'il jugeait nécessaires. C'est ce qu'on appelle les amendements. Vous voyez, c'est comme à l'Assemblée nationale, c'est le travail des amendements. Et donc, on a récolté les travaux de ces 12 groupes et on a fait une nouvelle proposition qui a été discutée en séance plénière. Et c'était l'occasion aussi pour tous les membres du synode de pouvoir exprimer leurs convictions, de pouvoir exprimer leurs désaccords, leur désir d'être plus précis sur tel aspect, d'être plus complet sur tel autre. Et nous avons recueilli toutes ces remarques. Et le soir même, nous avons repris le texte pour le réécrire, pour mieux intégrer toutes les remarques qui nous avaient été faites et le soumettre à l'assemblée plénière du synode le dimanche matin. Ils ont pris connaissance du texte, encore quelques modifications, et puis 2 séances après, il a été soumis au vote. Et donc là, le vote était un vote groupé, donc également 85 pour et une voix contre.
Donc ce texte, en fait, là, maintenant, il va être envoyé, donné aux conseillers presbytéraux, envoyé après au national. Qu'est-ce qui se passe pour ce texte?
Alors, sa première fonction est d'être transmis au niveau national, aux rapporteurs nationaux, pour qu'ils puissent préparer le travail du synode national qui aura lieu l'année prochaine pendant le temps de l'Ascension. Hein, le synode national dure 4 jours et c'est autour de l'Ascension, alors que le synode régional dure 3 jours et c'est en général au mois de novembre. Donc, tout d'abord, ce texte est destiné aux rapporteurs nationaux pour qu'ils puissent, avec les travaux des autres régions, faire une préconisation au synode national qui va travailler ce sujet en tenant compte de tout ce qui a été travaillé dans la région pour finalement faire une décision qui sera à appliquer au niveau national. Mais nous avons aussi pensé ce texte par rapport aux églises de notre région, en souhaitant que ce texte soit un outil en faveur des membres de notre région. Et c'est la raison pour laquelle nous avons consacré du temps sur le ministère presbytéral, le ministère diaconal, parce que ça, c'est applicable dès à présent dans les églises locales, c'est-à-dire au plus près de la vie des gens. Dans la mesure où nous avons considéré que nos difficultés étaient locales, mais que nos ressources aussi sont locales, c'est donc au niveau local que ce texte doit trouver toute sa raison d'être. Et c'est intéressant parce que pendant le synode régional, nous avons l'occasion de parler finances et les finances ne vont pas bien dans notre région. Et la tentation était de refaire d'un seul coup, de suivre notre mauvais penchant et d'organiser un synode qui serait consacré aux finances, ce qui est certainement très utile, mais en ayant en tête simplement la question des finances. Et avec ce texte, nous avions l'occasion de rappeler que l'administratif est second et que c'est la dimension de l'évangile qui doit être première. Et donc, c'était un encouragement à ce que les finances soient au service de notre projet d'église, de notre projet missionnaire, et non pas de mettre notre église en marche forcée à la course après l'argent. Voilà. Faire en sorte que ce ne soit pas l'argent qui dicte notre calendrier, mais que l'argent soit la résultante d'un calendrier qui est consacré à notre mission, à l'évangélisation, aux soins du prochain et à notre désir que la foi soit une donnée qui soit prise en compte par nos contemporains.
J'entends bien un souffle nouveau qui est désiré non seulement par vous, mais je pense par la majorité des personnes et des églises locales notamment. J'espère et nous espérons que ce texte et ce qui a été vécu en synode soit bien rapporté et que les délégués synodaux soient porteurs de cette nouveauté. Comme vous nous avez parlé des finances qui vont mal, eh bien voilà.
En fait, il faut se dire que le synode a constaté la fragilité de la région, mais qui est en fait la fragilité des églises locales, et le trésorier n'a pu que nous faire un tableau qui n'était pas très réjouissant, pour dire les choses assez simplement, sur un budget qui est à peu près de l'ordre de 2 millions, il manque 150 000 euros pour être à l'équilibre. Et deux possibilités. Soit on vote un budget en déficit et on puise sur des réserves qui sont qui sont très faibles également, hein. C'est-à-dire que si on prend 150 000 euros dans les réserves de la région, bien c'est à peu près la dernière fois qu'on le fait. Donc, comment vivre avec un déficit structurel? Donc, ça pouvait être une sorte de fuite en avant, on se donne encore un an. Le synode a fait le choix inverse, c'est de dire qu'on ne vote pas un budget en déséquilibre, mais on demande une contribution exceptionnelle aux églises locales qui, elles, ont aussi des réserves, ont aussi des potentialités, peuvent peut-être compléter un peu la contribution financière qu'elles donnent à la région pour l'année, de façon à ce que les réserves de la région ne soient pas impactées. Et surtout, puisque le déficit est en fait un déficit structurel, nous prenons l'initiative de réunir un synode extraordinaire et une assemblée de tous les conseillers presbytéraux pour penser notre fonctionnement d'église en lien avec la mission de notre église. Et c'est important de se dire qu'il va y avoir une assemblée de tous les conseillers presbytéraux parce que l'année prochaine, au printemps, toutes les assemblées générales vont être l'occasion de renouveler les conseils presbytéraux, c'est-à-dire tous les comités directeurs d'église doivent être renouvelés, avec certains qui partent, des nouveaux conseillers. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait intéressant d'avoir une séance synodale, finalement, une rencontre de tous ces gens-là pour les former. Qu'est-ce que le ministère presbytéral, dans le contexte de notre région, qui justement fait le choix de cette orientation, qui est une orientation, je dirais, très proactive, avec ce désir d'arranger la situation et de ne pas continuer à entretenir une sorte de déficit structurel. Comment être mieux église, finalement? Comment être mieux église de Jésus-Christ aujourd'hui en Cévennes, en Languedoc-Roussillon? Et ça, c'est pas simplement l'affaire de quelques délégués, c'est l'affaire de toutes les églises et donc de tous les conseillers presbytéraux. Et avec un synode pour transcrire cela en décision concrète. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de sursaut, moi j'appellerais ça une résurrection, qui est une prise de conscience qu'on ne peut pas laisser continuer les choses à se défaire. Et donc, on reprend la main. Et on imprime un mouvement avec une direction qui est celle de cette évangélisation. C'est un mot que j'emploie à dessein parce que on se rend compte qu'on est très frileux sur la question de l'évangélisation. On a peur d'évangéliser, alors que évangéliser, c'est de rendre l'évangile disponible autour de nous. On estime que l'évangile est bon pour nous, alors offrons-le, mettons-le à disposition, sans obligation d'y adhérer, mais en tous les cas, ne laissons pas les gens en privé, finalement, de ce qui pour nous est une richesse incomparable.
Très bien, merci beaucoup parce que c'est toujours assez compliqué la question un peu des finances. On n'ose pas toujours en parler. Je pense que
Au
c'est
fond,
bien
c'est
de.
simple, hein. Le budget principal, c'est le salaire des pasteurs. Et c'est là-dessus que nous avons des problèmes, parce que on peut considérer que les pasteurs sont une variable d'ajustement. Si on embauche moins, eh ben on a moins d'argent à dépenser. Et souvent, les économies ont été faites parce que on n'avait pas embauché autant de pasteurs que budgété. Pour le reste, on a 600 000 euros qui sont consacrés aux frais nationaux, c'est-à-dire les facultés de théologie, les retraites des pasteurs, la Fédération protestante de France et donc les aumôneries. Et puis on a environ 60 000 euros pour la mission, c'est le service protestant des missions, et 600 000 euros à peu près pour les frais de région. Donc on a un budget qui est souvent au regard de ce que sont les pasteurs, finalement aligné sur l'augmentation ou la diminution du nombre de pasteurs dans la région.
Au sujet du départ de Jean-Pierre Julien, comment ça s'est fait la jonction entre Jean-Pierre Julien, Jean-François Braine,
Puisque c'est de Jean-François
pour ne
Braine
pas
dont
le
il est
nommer.
question, qui est actuellement pasteur dans les fameuses terres du milieu, qui est une expression
Voilà.
assez sympathique. Alors, Jean-Pierre Julien, qui était président du conseil de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon depuis une huitaine d'années, avait annoncé que à la fin de ce deuxième mandat, il ne souhaiterait pas un renouvellement, et donc il fait le choix de reprendre une responsabilité pastorale en paroisse. Et il y a donc une commission de nomination qui a été constituée par le conseil régional. Le conseil régional est là pour préparer l'avenir et donc il a établi une commission qui s'est interrogée sur le bon profil du futur président, à consulter des personnes, à écouter et à interroger les candidats potentiels. Et donc, On peut dire qu'ils ont jeté leur dévolu sur le pasteur Jean-François Brenne, qui, après réflexion, a accepté cette responsabilité, qui est une responsabilité lourde, difficile, courageuse de sa part, compte tenu du contexte. Hein, vous voyez, c'est pas du tout honorifique, c'est vraiment un ministère de service. Et donc, il a été élu au conseil régional pour un au titre de pasteur, là, au dernier synode, en précisant bien que c'était dans la perspective ensuite de devenir président du conseil régional. Et donc, depuis le mois de septembre, il accompagne Jean-Pierre Julien dans toutes ses missions, dans toutes ses réunions, pour découvrir l'intégralité de ce ministère très spécifique de président du conseil régional. Et au 1er avril, je ne suis pas sûr que la date soit la plus heureuse qui soit, mais au 1er avril, le conseil régional va donc l'élire comme président du conseil. Et pour ce qui concerne Jean-Pierre Julien, il prendra un temps sabbatique avant de prendre un nouveau poste pastoral. Donc, Jean-François Brenne part lancer. Il y a un véritable tulage qui se fait avec son prédécesseur, de façon à ce que le 1er avril, il soit en situation de gouverner le conseil et de faire en sorte que l'Église ne soit pas au point mort.
Très bien, merci de nous avoir expliqué la jonction, parce que ça c'est important aussi que les deux, l'ancien et le nouveau, soient bien en accord et travaillent ensemble.
Oui, puis il est important de dire qu'il a été très bien élu, hein. Je veux dire qu'il a eu quasiment la totalité des voix, peut-être 85 sur 86 suffrages. Donc il y a en plus un consensus régional qui est extrêmement encourageant pour la suite.
Oui, je crois qu'il est très apprécié, déjà très apprécié, et nous lui souhaitons beaucoup de courage aussi, parce oui. Que c'est pas rien ce poste-là.
Mais il est important aussi de se dire que nous devons être avec lui au service de l'Église. C'est pas un ministère isolé, c'est un ministère collégial, et la folie serait de penser que c'est lui qui va tout régler. Nous devons régler avec lui, un peu comme chef d'orchestre, je pense, voyez.
Oui, il y a tout un conseil donc avec lui, et puis voilà.
Et même quand on n'est pas du conseil, on a le droit d'être au service de l'Église.
Tout à fait, bien sûr. Bien, nous avons dit l'essentiel de ce synode, qui était très très riche et très un peu mouvementé même, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on avance. Où beaucoup parlé,
il y a eu beaucoup de la vie et qu'il avait de l'envie.
Oui, beaucoup d'interventions et beaucoup de relations, d'échanges. Et c'est toujours un moment important, le synode régional.
Et des membres du synode qui étaient satisfaits de ce synode, je crois, hein, justement parce qu'il était vivant, qu'il y a eu des discussions et des résolutions qui étaient intéressantes.
Très bien, eh bien, moi je n'ai plus qu'à vous remercier. James Woody, et vous souhaiter
vous.
Bonne suite pour votre ministère. Merci beaucoup.
Avec plaisir, puis, au revoir.
Au revoir.
Alliance Plus.